L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes, conté par le professeur Ahmed Jabbar.
Tout comme les sciences, les mathématiques, l'astronomie ou la mécanique que vous avez pu découvrir ces dernières semaines, la culture en islam, à l'époque de l'âge d'or des sciences arabes, a su développer à sa propre inspiration tous les arts décoratifs et architecturaux hérités là aussi des Byzantins, des Perses et des Grecs. Leurs caractéristiques, des lignes épurées et un foisonnement de détails souvent inspirés de formes naturelles stylisées. Et c'est la calligraphie, l'art de la belle écriture, qui atteint dans cette civilisation un sommet de raffinement et d'harmonie, à tel point que dans certaines œuvres, l'élégance prend le pas sur la lisibilité. Les plus belles des calligraphies ont été composées et ciselées pour le Coran, mais aussi sur la pierre, le marbre et les mosaïques des mosquées. Dans cet empire monde qui va de Saragosse à Samarcande, les arts ne sont pas un art proprement religieux. Et contrairement aux idées reçues, il a bel et bien existé des représentations humaines et animales malgré le rejet des idoles. Si l'interdiction de l'image figurée a été respectée depuis le 9e siècle pour ce qui est des espaces religieux, son utilisation apparaît dans de nombreuses productions profanes et dépend de facteurs religieux mais aussi sociaux, philosophiques et historiques. Professeur Jabbar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors déjà, pour aller vite et bien, quels sont les différents aspects de l'art en pays d'islam qu'on a connu à cette époque-là?
D'abord, ce qui est le plus visible, c'est l'art architectural. Il y a l'architecture religieuse, les mosquées, les mausolées, petits ou grands, mausolées pour des chefs religieux ou pour des princes ou des califes, parfois de beaux mausolées pour des femmes, des princesses, des reines ou des mamans de grands princes ou de califes. Il y a aussi l'architecture profane.
Qu'est-ce que vous appelez profane ?
Dont le but n'était pas uniquement un geste religieux ou dans un but religieux.
Donc les palais, par exemple, qu'il fallait embellir.
Très juste. Il y a les palais, petits ou grands. Il y a les madrasas, c'est-à-dire les ancêtres des universités, qui sont des institutions immenses. Il y a les observatoires, où il y a des éléments architecturaux. Il y a les hôpitaux, dont il nous reste de très beaux vestiges, intacts même, et qui montrent qu'ils étaient conçus d'une manière aussi artistique, pas seulement utilitaire et fonctionnelle. Il y a les hammams. On n'y pense pas. C'est aussi des lieux de convivialité et des lieux esthétiques. Et puis, il faut ajouter les caravansérails, parce que ce sont des lieux de vie pour les voyageurs, et des réalisations qui dépendent de l'activité économique, de l'activité militaire. Même, par exemple, les ponts, les norias, ce sont à la fois des objets immenses, importants, utilitaires, mais qui sont esthétiques aussi. Donc ça, c'est l'architecture profane. Et tout ça, c'est l'architecture, l'art architectural. Il y a aussi l'art décoratif. Il y a l'art floral, les plantes, etc., l'art animalier, tout ça c'est quand même distinct, vous allez voir, parce que les problèmes qui vont se poser concernant l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de l'art dépend aussi du type d'art. Il y a l'art figuratif, c'est-à-dire représenter les visages humains.
On va s'attarder dans quelques instants parce que c'est quand même une partie importante qu'il faut pouvoir bien expliquer.
Si vous voulez, oui, surtout qu'elle est un peu d'actualité.
Oui, oui.
Il y a l'art géométrique, très abstrait. Alors dans cet art géométrique, il y a l'art à deux dimensions, comme on dit, pour les mosaïques, les arabesques, les calligraphies. Et puis il y a un art à trois dimensions dans l'espace, c'est-à-dire qu'on décore par exemple les coupoles, les ogives, les moukarnasses. Ah, les moukarnasses, c'est une décoration à trois dimensions. Il y a l'art du verre. L'art du verre, c'est de la décoration à trois dimensions.
Oui.
Parce que l'objet lui-même est à trois dimensions.
Oui.
Enfin, il reste deux arts importants, au moins. Eh bien, il y a l'art sonore, c'est-à-dire la musique. On l'oublie. C'est de l'art. La musique et la poésie, c'est de l'art. Le théâtre, c'est de l'art. Est-ce qu'il y a eu du théâtre? Il y a eu de la musique, c'est sûr. Il y a eu de la poésie, beaucoup. Le théâtre, un peu moins. Ça dépend des cultures régionales. Et enfin, quelque chose qui fait saliver, mais auquel on ne pense pas,
l'art culinaire. Alors, que disent les textes fondateurs de l'islam au sujet de l'art? Parce qu'il est interdit de représenter la personne humaine, le visage, le corps, etc.
En fait, vous avez parlé d'interdit, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Comme tout ce qui concerne la mise en pratique des grands principes de cette religion qui est l'islam, la mise en pratique diffère du contenu des textes. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'interprétation, d'exégèse. Et aussi, dans quel contexte vont être appliqués les principes qui sont dans les textes fondamentaux, c'est-à-dire le Coran et les paroles attribuées aux prophètes. Et je l'ai souvent dit dans ces émissions, mais je le répète, c'est très très important. Alors, commençons par le commencement. Évidemment, est-ce qu'il y a des allusions ou bien des références explicites à l'art en tant qu'art dans le Coran, d'abord? C'est une bonne question. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul aspect de l'art qui est évoqué dans le Coran de manière explicite, c'est ce qui est lié à la représentation figurée, c'est-à-dire à l'image humaine ou animale, surtout humaine. Et cette image, c'est essentiellement à trois dimensions, c'est-à-dire les statues, les idoles. Voici le verset du Coran, il est connu. Donc c'est le verset 90 du chapitre 5. Il est dit précisément, « Aux croyants, le vin, les idoles, on peut traduire aussi par les pierres dressées, l'ansab en arabe, et les flèches divinatoires sont une abomination, œuvre de Satan, évitez-les et vous prospérerez heureux. » C'est très très important. Déjà, dans le texte lui-même, il n'y a pas condamnation. Évitez-les.
Il dit abomination, ce qui veut dire que ça poserait problème si...
Mais dans les textes juridiques, on distingue ce qui est conseil, ce qui est condamnation, ce qui est... Ah oui, oui. Parce qu'après, il faut appliquer ça sur le plan juridique, pour condamner ou ne pas condamner. Des faits délictueux.
Oui.
Bien sûr, il faut interpréter, etc. Ensuite, vous remarquerez qu'il s'agit des idoles, ou des pierres dressées, c'est-à-dire de quelque chose qui est une réalisation artistique ou religieuse, à trois dimensions.
Qui soit une représentation plus ou moins fidèle de l'être humain.
Ce n'est pas précisé. Alors, il y a un deuxième verset, qui est le verset 74 du chapitre 6, qui lui évoque, ce sont les deux seuls à notre connaissance, qui évoquent aussi cette représentation humaine. À l'époque, il s'agit d'une scène qui concerne le prophète Abraham, et qui parle à son père, et qui lui fait des reproches, et qui lui dit, là je cite le Coran, « Prendras-tu des idoles pour divinité? Je te vois ainsi que ton peuple dans l'erreur manifeste. » Et donc, ce sont les deux seuls endroits du Coran où on évoque cette représentation à trois dimensions, et il s'agit manifestement, explicitement, des représentations à trois dimensions, puisque dans le premier verset, c'est l'ansab, dans le deuxième verset, c'est l'asnam, le sanam, c'est-à-dire statue.
Je note que vous dites à chaque fois « représentation à trois dimensions », à aucun moment vous ne dites « représentation humaine ».
Oui, à trois dimensions d'un être humain, bien sûr, ou d'une divinité. C'est-à-dire à l'image de l'homme.
Oui, mais vous ne le dites pas à aucun moment, mais dans le verset,
dans le texte,
moment.
Il n'y a rien. Mais le texte lui-même a besoin d'exégèse. Et c'est justement les commentaires qui vont venir après, les explicitations, en fonction à la fois des écoles théologiques, en fonction des personnalités des théologiens, qui vont infléchir dans telle ou telle orientation l'interprétation de ces passages. Mais ce qui est le plus clair, le plus évident, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction formelle d'agir en fonction de ces objets. Il y a mieux que ça. Il n'y a aucune interdiction formelle de fabriquer ces statues. Il n'y a pas de verset disant « il est donc interdit de fabriquer des statues ».
Oui.
Ce n'est pas dit du tout, du tout. D'ailleurs, cela est confirmé par le fait que, jusqu'à l'époque de Muawiya, donc à la fin du 7e siècle, il est mort vers 680, nous savons qu'il y avait une industrie florissante de fabrication des idoles pour l'exportation. On fabriquait, puis on les donnait à des marchands qui allaient les vendre en Inde et en Chine.
Et le commerce n'a jamais été illicite en islam, mais ils avaient le sens des affaires.
Voilà, et puisqu'ils savaient qu'il y avait des païens, des idolâtres, qui étaient très loin, et donc il fallait faire du commerce.
En fait, ce qu'il fallait, c'est qu'elles ne restent pas en terre d'islam.
C'est ça, c'est ça. Alors par contre, lorsqu'on passe maintenant à ce qui est attribué comme parole au prophète, les choses changent. Parce que là, autant dans les textes coraniques, il y a matière à faire de l'exégèse, à interpréter, etc. Dans les paroles du prophète, dans certaines paroles du prophète qui lui sont attribuées, la condamnation est claire. Donc il s'agit de condamner tout ce qui peut ramener les citoyens à l'époque
anti-islamique
de la Jahiliya, qui était caractérisée précisément par le culte des idoles et la fabrication,
l'adoration
des statues. Dans ce sens, c'est tout à fait compréhensible. Et donc là, la condamnation est exprimée de diverses manières. L'une des phrases les plus célèbres du prophète, c'est celle qui dit « Les anges n'entrent pas dans un temple où il y a des images ». Alors, le mot temple, c'est le mot beit, mais dans le contexte de l'époque, il ne s'agit pas de maison, il s'agit du temple. Et puis, les images, en fait, le mot arabe, c'est tamathil, qui veut dire aussi statue. Cela dit, ça va être explicité par des théologiens, dans le sens où beit, c'est la maison. Donc, il y a une sorte d'extension de cet interdit, parce qu'il est tout à fait possible que le prophète n'ait pas pensé à interdire la présence de représentations à trois dimensions dans les maisons. Mais là, il y a une extension. au 8e, 9e siècle, ça c'est clair.
Hein. C'est formel.
C'est formel pour dire, oui, le prophète a voulu dire la maison, et il a voulu dire non pas seulement des représentations à trois dimensions, mais des images, c'est-à-dire même à deux dimensions. Et effectivement, à partir de là, il va y avoir une sorte de pression dans la société où on va convaincre les gens qu'il faut
évacuer enlever,
tout ce qui est décoration à deux dimensions, anthropomorphique comme on dit, c'est-à-dire qui représente les visages, et à trois dimensions a fortiori. Pour bien montrer que le problème concernant la représentation figurée qui est évoquée dans les deux versets du Coran, c'est un problème qui est délicat parce qu'il détermine évidemment les comportements ultérieurs. Mais les comportements ultérieurs sont déterminés d'une manière simple si les textes sont très explicites. Alors, pour bien montrer qu'il est possible d'être très explicite, je vais vous lire deux versets de la Bible sur le même sujet, et qui, eux, sont très explicites. Le premier, qui est dans le Deutéronome, chapitre 5, 8, « Tu ne feras aucune sculpture ou représentation d'être créé. » Là, il y a un interdit, qui n'était pas explicite dans le premier verset du Coran. Le deuxième, l'Exode 20, 4, « Tu ne feras pas d'image taillée, ou aucune ressemblance d'aucune chose qui est aux cieux, ou qui se trouve sur la terre, ou dessous, ou dans l'eau. » Une interdiction à la fois totale et qui concerne le règne animal,
végétal et humain.
Ces deux formulations sont très 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 explicites comparées à la formulation qui est dans le Coran, qui laisse une possibilité d'interprétation fantastique. Et si maintenant on se souvient que les interprétations vont commencer à s'élaborer en même temps que l'art se développe, en même temps que les sciences se développent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'abord les interprétations qui ensuite ont verrouillé les portes. Comme les trois activités vont se faire en même temps, eh bien, chacune des activités avait la liberté de fonctionner et de naviguer et de créer des orientations d'une manière tout à fait originale ou de se conformer d'ailleurs à telle ou telle interprétation du texte sacré.
On peut dire que c'est une chance.
C'est une chance absolument liée à l'histoire même de la constitution du corpus qui va gérer la cité. Parce qu'il y a le corpus sacré, mais le corpus sacré n'intervient dans la gestion de la cité que après avoir élaboré un corpus d'application, si j'ose dire. Mais là, il faut l'élaborer, et ensuite, il faut l'appliquer. Et pour l'appliquer, il y a les juges, mais il y a aussi le pouvoir politique. Et il y a les théologiens. C'est parce qu'il y a eu une sorte de pouvoir tricéphale, qui est le calife, ou son représentant, le juge et le théologien, et bien cette diversité, et surtout cette autonomie des trois pouvoirs, et cette liberté entre eux qui est assumée a donné plus de liberté dans la vie de la cité musulmane. Et ça paraît paradoxal, mais c'est la vérité. Et c'est ça qui explique pourquoi il y a eu beaucoup moins de condamnations de choses qui étaient censées être condamnées en pays d'islam qu'il y en a eu entre le 6e siècle et le 15e siècle, 17e siècle même.
Et moins de condamnations qu'il y en a aujourd'hui, point d'exclamation.
Je vous ai dit qu'on peut expliquer cette interdiction à son époque par un souci tout à fait légitime, qui est d'abord de condamner et d'éliminer toutes les poches de paganisme qui restaient encore. Et la manifestation la plus claire du paganisme en particulier,
c'est cette représentation
et cette adoration des statues. Et puis surtout, le second souci important, c'est d'éviter que les nouveaux musulmans, nouvellement convertis, continuent à conserver des types de comportements païens, et où il y a un mélange à la fois du nouveau monothéisme religieux et les séquelles du paganisme, après tout, c'est culturel.
Aujourd'hui, on dirait faire un mix des deux.
Voilà, absolument. Et donc, on comprend tout à fait cette attitude, qui est de
préserver en quelque sorte
cette pureté de la nouvelle religion.
Voilà.
Un des éléments aussi, peut-être, c'est une hypothèse de chercheur, qui a favorisé le rejet petit à petit, parce qu'il y avait eu décret, le rejet sous la pression de certaines interprétations de théologiens, le rejet de cette représentation figurée, mais il y a tout simplement le fait qu'à un moment donné, même aux yeux de l'opinion, des couches sociales les plus défavorisées, tout ce qui était décor, tout ce qui était représentation figurée, c'était associé au palais, à la belle vie, à la richesse, les tombes qui étaient très luxueuses et qui étaient tapageuses, c'était les pleureuses dans les enterrements, alors que c'était pas dans la tradition musulmane, c'était les chiens de luxe, beaucoup de femmes de Bagdad, de Kerouan, de Cordoue, avaient des chiens de luxe qui payaient, mais vraiment absolument très très cher, qui étaient élevés presque comme des enfants. Il y avait aussi une forme de condamnation indirecte de l'utilisation des peaux de bêtes, de tous les habits qui utilisaient des peaux très 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 chères. Il y avait les ornements d'or. Bref, tous ces éléments qui, en fait, représentaient une sorte d'excès dans la vie, de comportement ostentatoire, étaient condamnés par les théologiens qui voulait que l'on revienne à l'islam originel. Et on peut comprendre que dans ce sens-là, eh bien, la condamnation de la représentation figurée avec de belles peintures, etc., etc., et des scènes bachiques, eh bien, entrer dans cette condamnation générale. Et à un moment donné, donc, on s'est écarté de tout ça.
Mais est-ce qu'on n'a pas transgressé cet interdit ?
Alors, justement, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a insisté beaucoup sur ce que le texte disait ou ce qu'on faisait dire au texte. Mais le problème le plus important pour un historien, bien sûr, c'est qu'est-ce que ces textes vont devenir quand il s'agira de les appliquer dans la société, et est-ce qu'on va pouvoir les appliquer, et est-ce que les citoyens vont se soumettre à cette orientation qui est de s'interdire tout ce qui est représentation humaine, etc. Eh bien, depuis le 8e siècle et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu constamment transgression de cette orientation.
Mais transgression volontaire, histoire de casser un tabou, ou transgression parce qu'il y avait des raisons. Si on applique les préceptes stricto sensu, on ne devrait pas avoir de carte d'identité. Il y a même des gens qui se sont élevés il y a quelques années là-dessus.
Alors, à l'époque, ce n'était pas cette raison. À l'époque, c'était, en fait, la réponse dépend des couches sociales, dépend de la position de l'individu ou des groupes dans cette société multiforme, qui est cosmopolite, qui est multiconfessionnelle, qui est très ouverte, qui n'a pas encore trouvé toutes ses marques dans la pratique même, culturelle, etc., dans la religion, et qui va chercher sa voie et qui va appliquer à sa manière certains grands principes. Et donc, pour ce qui concerne l'art, du moins la représentation figurée, eh bien, on va constater que les princes, par exemple, sont les premiers à transgresser cette orientation. Et donc, on voit en particulier, dès l'époque omeyyade, des palais qui sont décorés avec des animaux, des fleurs bien sûr, et des visages humains. Vous avez le palais omeyyade qui s'appelle le palais de Qusay al-Amra. Il est actuellement en Jordanie. Il a été construit pour le calife al-Walid Ier, calife omeyyade qui a régné de 705 à 715. Il existe, hein, on peut le voir. Eh bien, il y a 350 mètres carrés de peinture et qui contient 250 personnages humains, plus des animaux qui illustrent la cour du prince, la chasse, l'artisanat, la vie quotidienne, etc. Il y a aussi, très vite, au 9e siècle, et plus tard, bien sûr, on va mettre des effigies des califes et des princes sur la monnaie.
Ah oui, c'est vrai.
Eh bien oui, au début, la monnaie était avec uniquement des phrases religieuses, et petit à petit, certains princes, certains califes, vont demander à ce que leur visage soit représenté. Il n'est pas sûr que ce soit leur visage fidèle, mais c'est un visage humain. C'est ce qu'aurait fait, semble-t-il, le calife Abbasid al-Mutawakkil, qui a régné quand même de 845 à 861. C'est ce qu'a fait un de ses successeurs, al-Muqtadir, nous sommes là au 10e siècle. Il a régné de 908 à 932. Et alors là, cette tradition de peindre dans les palais va continuer, sauf quelques exceptions. Cette tradition de faire de la monnaie avec des effigies va se continuer. Et puis, à partir du 13e siècle, un phénomène puissant qui va se développer surtout en Asie centrale, en Iran, où la représentation humaine va se trouver dans tous les beaux livres, comme on dit. Les livres en particulier de littérature, et les deux grands livres qui vont être le plus décorés, qui vont être publiés avec leur décoration pratiquement à chaque page.
Décoration dans le sens de illustration.
Illustration avec des animaux, des êtres humains, avec de belles couleurs, etc., etc., avec des artistes qui sont payés très cher, et commandés par des princes. C'est le fameux Maqamat al-Hariri. C'est les séances de l'Hariri. C'est bien connu, c'est au XIIIe siècle, donc il raconte des tas de choses dans la vie de tous les jours, etc. Et c'est illustré par des peintures, des miniatures.
Je ne veux pas être péjoratif, c'est un peu le roman photo de l'époque.
C'est ça, absolument, absolument. Et puis enfin, il y a le fameux livre célèbre d'origine indienne, qui va être d'abord connu par les Persans, puis traduit du syriaque à l'arabe ou du persan à l'arabe par Ibn al-Muqaffa, bien c'est le fameux livre des fables de Galilée et d'Imna. C'est un peu comme les fables de La Fontaine. Ce sont de superbes illustrations où il y a souvent des animaux, il y a des êtres humains, mais souvent des animaux. Et donc là, on voit bien que c'est un phénomène qui n'est pas ponctuel, qui n'est pas isolé.
Une question qui me préoccupe, hein, vous avez pensé que je suis féministe, mais c'est pas ça. Il y avait des représentations de femmes ?
Oui. J'en parlerai tout à l'heure après quand on parlera de la relation de l'art avec les sciences.
En fait, on s'est attardé sur cette représentation du figuratif qui est considérée comme un véritable tabou. Mais notre but premier, c'était ce lien entre l'art et les sciences. Alors, comment il se construit, ce lien, justement ?
Alors, grosso modo, il y a deux types de relations qu'ont eu les arts et les sciences. Il y a d'abord intervention de l'art dans les sciences. On peut tout à fait concevoir de faire des livres de sciences sans absolument qu'il y ait de l'art dedans. Après tout, le livre de sciences, ça s'adresse à la raison, à la réflexion. Il suffit de donner les éléments Les sciences et les mathématiques, l'astronomie, la physique, etc. Puis on comprend. Éventuellement, il y a des figures mathématiques, des schémas, des modèles. On peut même dessiner des instruments. Bien. On ne voit pas pourquoi l'art intervient. Et pourtant, l'art va intervenir. Et le deuxième aspect très important, c'est les sciences qui sont intervenues dans l'art. L'art a eu besoin des sciences. Alors, ça commence d'abord dès le Xe siècle. On voit apparaître des ouvrages. Il faut bien voir que nous sommes au Xe siècle, donc au IXe siècle, il y a eu un phénomène de régression du travail de l'art figuratif. Et donc, les artistes qui faisaient de l'art figuratif vont diminuer leur activité, semble-t-il. Il va y avoir une sorte de pression, on ne connaît pas tous les éléments historiques. Toujours est-il qu'on voit même, par exemple, à un moment donné, un calife, Moqtadi, je crois, donner l'ordre d'effacer toutes les décorations qui étaient dans son palais. Alors, sous-entendu que, jusqu'à son époque, il y avait des décorations dans les palais. Ensuite, évidemment, il n'est pas question qu'il y ait des décorations, ou quoi que ce soit, dans les lieux de prière. Même si on a eu au début, ensuite ça a été effacé. Donc il y a un retour, une sorte de consensus, dans la plupart des milieux, quelles que soient d'ailleurs les tendances, orthodoxes ou chiites, qu'il ne faut pas qu'il y ait de la représentation de l'art, mais figuré, humain, à la fois dans les lieux de culte, mais même dans les maisons, dans les palais. Alors, il est peut-être possible que ce soit cette situation qui va devenir majoritaire, qui n'a pas été décidée par le pouvoir politique, qui a été évidemment encouragée, entraînée par des théologiens qui interprétaient les textes, mais les théologiens pouvaient interdire ce qu'ils voulaient. À partir du moment où ils n'avaient pas le pouvoir exécutif, il leur fallait l'épée. L'épée du pouvoir, et l'épée, ils l'avaient pas. Ils avaient la plume. À notre connaissance, le pouvoir, sauf quelques exceptions, en particulier un calife abbasside, qui, à un moment donné, a ordonné à son gouverneur en Égypte qu'il détruise tout ce qui est image à trois dimensions. Mais c'était une lettre qu'il avait écrite au gouverneur, qui était une décision prise pour une région donnée. C'est pas par hasard, parce que l'Égypte, c'est le pays des statues. C'est le pays des pharaons, des statues, etc., etc. Mais ce sont plutôt des exceptions. Par contre, ce comportement nouveau qui, naturellement, amenait les gens à éviter de décorer les lieux par des visages, eh bien, il est possible que ça a encouragé les artistes qui restaient à travailler dans des domaines où ils n'étaient plus critiqués. Mais il restait des domaines qui appartenaient à l'élite, quand même. C'est soit les enluminures pour les ouvrages de poésie, de littérature, de géographie des voyages, soit des livres scientifiques. Ce qui expliquerait pourquoi, à partir du IXe siècle, apparaissent des illustrations très belles, avec des superbes couleurs, qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas indispensables pour comprendre les textes. On peut très bien faire uniquement des schémas. Je vous donne l'exemple justement du premier livre d'astronomie qui a été illustré comme ça. C'est le livre de Abdelrahman Sofi, Xe siècle. Il est très célèbre. Hein. On a des copies, dont une superbe copie qui est à la Bibliothèque nationale à Paris. Et il y en a à Istanbul, il y en a un peu partout. Eh bien, c'est un livre où on décrit les étoiles et les constellations, tout ce qu'on voit dans le ciel. Il est évident que toutes ces étoiles, bien avant les astronomes musulmans, on a réussi à les tracer, à les décrire, avec des figures géométriques. On parlera de la petite ours, de la grande ours, etc., qui sont des figures qui ressemblent à des chariots. Mais il n'était pas nécessaire de les couvrir par des visages humains, ou bien par des animaux mythiques, parce que ça n'apporte rien à la connaissance. Et donc on a de superbes décorations, avec des pages et des pages et des pages et des pages, où on a une constellation, alors c'est marqué la constellation telle qu'elle est vue du ciel, et la même, mais symétrique, la même constellation telle qu'elle est vue sur le globe céleste. Et ils font deux dessins qui sont absolument identiques, mais qui sont symétriques, avec de belles couleurs, et là on voit non seulement des animaux, mythiques ou réels, mais on voit aussi des hommes, des guerriers, des ogres, et on voit des femmes. Et je vous assure qu'on voit de belles femmes dodues, vraiment plantureuses, style les femmes de l'Inde ou de Chine. Ou
c'est pas les mannequins d'aujourd'hui.
Ah là, c'est pas les mannequins d'aujourd'hui. Non, non. Voilà donc un exemple où l'art entre dans la science. Les historiens de l'art considèrent qu'il y a eu une première période où les artistes de l'islam, tout à fait au début, les califes recrutaient évidemment les artistes qui n'étaient pas musulmans, parce qu'ils étaient déjà des artistes avant, des persans, ou des grecs, qui travaillaient dans l'Empire byzantin, parce qu'ils étaient des voisins. Ils sont devenus des sujets de l'Empire. Et puis ensuite, il va y avoir influence, donc l'art asiatique, l'art persan, l'art byzantin, va se retrouver dans les premières manifestations artistiques des pays d'islam. Et ensuite, il va y avoir donc une évolution de cet art. Mais l'évolution n'a pas été dans le sens d'une évolution avec une rupture dans la représentation des images. On a continué à imiter. Par contre, il va y avoir une rupture brutale au niveau suivant. C'est qu'on va s'arrêter de faire des images dans certaines décorations. On va inventer de nouvelles décorations. Je voulais signaler aussi que l'exemple que je donnais tout à l'heure de Sophie n'est pas le seul, ce n'est pas accidentel. Quand je parle de l'art au service des sciences, pour rendre un ouvrage scientifique beau, esthétique, clair, ça aide à bien comprendre, bien on le trouve aussi dans d'autres ouvrages. Par exemple, on a de très beaux livres illustrés du livre des plantes de Dioscoride, qui est un livre de plantes médicinales. qui s'appelle le De Materia Medica. Il n'avait pas de problème, ce sont des plantes, etc. Mais enfin, il n'était pas obligé de faire autant de belles choses, avec des couleurs bien choisies, etc. Il y a aussi le livre de médecine de Pseudo-Galien qui s'appelle Livre des Antidotes. Il y a un livre bien connu parce que bien décoré d'un certain Ibn al-Ahnaf qui s'appelle Livre de l'art vétérinaire. Là, on montre des animaux.
Dans les livres de médecine, il fallait quand même faire une représentation du corps humain pour comprendre les organes, comment ça fonctionnait, tout ça.
Absolument. Mais d'ailleurs, dans l'exposition à Alger, j'ai demandé en tant que commissaire scientifique à mettre ce qu'il y a dans les manuscrits. On a mis deux grandes affiches qui sont deux pages d'un manuscrit sur l'anatomie et la physiologie où on voit un squelette humain et on voit même un corps humain avec toute la circulation sanguine. Il y a même une autre belle image qu'on n'a pas mise par manque de place, une image d'une femme où on décrit comment la femme enfante, c'est-à-dire comment elle...
Tout le cycle de la grossesse.
Tout le cycle de la grossesse. Et on voit même le fœtus dans son ventre. Il est dessiné, et avec des couleurs.
Ça datait de quelle époque?
À partir du 9e siècle, 10e siècle, bien sûr. Alors donc, vous avez raison, il y a l'anatomie, et puis il y a les éléments vétérinaires, il y a la physiologie, et il y a aussi les automates. En mécanique, les automates, ce sont soit des animaux à trois dimensions, soit des êtres humains. Donc, on est obligé de dessiner des êtres humains. Et là, dans l'exposition à Alger, on a reconstitué un automate, un être humain comme ça, à trois dimensions, et dans son ventre, il y a tout un mécanisme ingénieux, et l'automate fonctionne. Donc là, c'est encore plus grave, si j'ose dire. C'est que non seulement c'est une représentation d'un être humain, qui n'est pas figé, mais il est presque vivant, c'est-à-dire qu'il imite l'être humain. Puisqu'on voit son bras se déplacer, il soulève le verre, il boit, ensuite il y a l'autre bras qui verse dans le verre, etc.
Le fameux verre de vin, vous aviez bien précisé
oui,
la dernière
semble,
fois.
Oui, il semble, oui, que c'était plutôt...
Il semble, d'accord, alors il semble ce soir. Donc ça, ce sont des exemples d'intervention de l'art dans les sciences, mais on dit souvent aussi que l'art musulman est essentiellement géométrique, c'est sa particularité. Alors, est-ce que c'est vrai, et d'une manière générale, comment est-ce que les sciences ont intervenu justement dans les arts?
D'abord, ce n'est pas vrai, parce que d'après tout ce que j'ai exposé depuis le début, c'est que l'art qui n'est pas géométrique a prospéré depuis le début jusqu'au 19e siècle. On a toujours continué, même s'il y a eu diminution, surtout dans le centre de l'Empire et dans l'Occident musulman, à partir du 9e siècle jusqu'au 14e siècle, on a toujours transgressé, on a toujours fait de très belles choses artistiques et qui représentent les animaux, les visages, les corps d'hommes, de femmes, de personnages mythiques, etc.
Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une transgression? Est-ce que c'est pas le, finalement le cours naturel de la vie et des choses qui fait qu'on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, faire tomber un couperet et dire ça, ça n'existe plus, ou faites comme si que ça n'a jamais existé?
Non, c'est-à-dire que moi je suis historien en sciences, je considère que c'est une transgression de l'interprétation des textes. Je n'ai jamais dit d'ailleurs que c'est une transgression du texte sacré. Oui. Parce que le texte sacré, tant qu'il n'est pas interprété et appliqué, c'est un texte qui est sacré, intemporel, anhistorique. À partir du moment où des êtres humains, par leur science de la religion, ou bien par leur décision politique ou idéologique, décident qu'il faut appliquer le texte de telle ou telle manière, c'est ça qui intéresse l'historien.
D'accord.
Je ne porte pas de jugement de valeur.
D'accord.
Bien sûr, en tant qu'historien, je dois être prudent. Je n'ai pas de témoignage de quelqu'un qui a fait de beaux tableaux de belles femmes et a dit « je fais ça pour transgresser » ou « je crée un nouvel art ». Nous n'avons pas ça. Mais son comportement et le fait qu'il ait été accepté par la communauté ou du moins par l'élite, parce qu'il y a toujours cet élément de l'élite qui est très important, fait que c'était des comportements vécus normalement. Donc vous avez raison dans ce sens-là. De notre côté, le comportement du théologien, pas tous d'ailleurs, très conservateur, qui devait être en colère tous les matins en voyant cet artiste produire de belles femmes bien rondes, bien dodues, bien c'est aussi un comportement normal dans sa démarche à lui en tant que théologien conservateur. Mais il y avait des théologiens non conservateurs qui manifestement ne s'offusquaient pas tous les matins contre les artistes.
Tant mieux d'une certaine manière. Alors je suppose qu'il y a eu, disons, des échanges entre scientifiques et métiers de l'art, comme par exemple la relation qu'on pourrait faire justement entre l'architecture et la décoration. C'était intimement lié tout ça.
Oui, parce qu'à partir du moment où on a une belle architecture, mais il faut compléter quand même cette œuvre d'art. Effectivement, il y a une deuxième dimension de l'art en pays d'islam, qui est une dimension tout à fait spécifique à cette civilisation, pour les raisons que j'ai évoquées rapidement, qui est une tentative réussie de marginalisation de l'art figuré. Donc il y a développement d'un art abstrait, si j'ose dire, d'un art géométrique. Et cet art géométrique, on va le retrouver, évidemment, accompagnant toutes les réalisations architecturales. C'est les sciences dans l'art. Alors il y a eu d'abord des motifs géométriques, motifs géométriques que n'importe quel.
Des carrés, des ronds, des triangles, etc.
Voilà. Oui. Il y a eu des inscriptions de figures dans d'autres figures, ça c'est plus compliqué. Il y a eu des découpages pour faire des mosaïques. Par exemple, si on veut réaliser des mosaïques, et qu'on a des petites mosaïques qu'on achète blanches et on veut dessiner sur de grandes mosaïques. Donc comment les découper pour faire de grandes mosaïques carrées pour recouvrir le mur. Il y a eu aussi de la géométrie à trois dimensions, ce qu'on appelle en français des stalactites, c'est-à-dire des recouvrements des coins des murs.
Les cornières, les angles, voilà. Tout ça n'ont pas été oubliés, disons.
Alors là, ils n'ont pas été oubliés et apparaît un art tout à fait nouveau à partir du XIe siècle, en tout cas en pays d'Islam, en Iran d'ailleurs. On ne connaît pas l'inventeur, le premier artiste, et qui est la décoration de tous les coins, de tous ces angles morts qui gênaient beaucoup. Et c'est une décoration évidemment à trois dimensions.
Ah oui, c'est très joli, oui.
Ça, c'est pour la géométrie. Mais il y a aussi le calcul qui entre dans l'art. Oui. Bien, il entre dans la calligraphie. Ça paraît étonnant, mais notre émission est très difficile aujourd'hui parce que...
Oui, il aurait fallu montrer.
Montrer tout. Et à ce moment-là, c'est très convaincant, sans discours. Et alors donc, la calligraphie, où intervient le calcul ? Eh bien, c'est au niveau de la mesure. Jusqu'à Ibn Mokhla, et donc au IXe siècle, on faisait de la calligraphie selon le génie de l'artiste. Et donc, on inventait des types de calligraphie à partir du même alphabet arabe. Et donc, on a inventé le Koufi, on a inventé le Nasri, on a inventé le Nasta'lir. C'est des types d'écriture.
D'accord.
Et certaines sont plus prestigieuses, plus nobles, etc., qui accompagnent le Coran, par exemple, comme le Koufi. Ça demande beaucoup de travail. Donc ça, on le faisait en fonction de l'inspiration du calligraphe. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui est venu qui a dit, non, attention. Et ça, d'ailleurs, c'est une conséquence du développement scientifique. Une sorte de climat scientifique qui fait que même les artistes vont être influencés par le fait qu'il faut introduire un peu de science. Eh bien, il y a un monsieur qui a dit, non, on ne peut pas dessiner comme ça des lettres n'importe comment. Donc, il faut décider d'introduire des proportions. Or, l'idée de proportion, l'idée de rapport, est une idée purement mathématique, à la fois géométrique et à la fois de mesure. Il faut introduire non seulement de la beauté, mais de l'harmonie. Pas de la symétrie intervient avec la géométrie, mais avec l'harmonie, on peut la réaliser avec les mesures. Alors, on dira par exemple que le alif doit correspondre à trois losanges. Donc on va inventer des unités de mesure des lettres de calligraphie. Les losanges, les cercles. Et donc on dira que il faut dessiner dans le cadre d'un cercle. Et le cercle, son diamètre doit être de 4 losanges, par exemple. Et donc à ce moment-là, la longueur d'un ba doit être proportionnée par rapport à la hauteur d'un alif. Et par rapport à l'épaisseur de la tête du djim et du creux du ventre du djim. Le ventre du djim doit avoir par exemple 3 losanges, la tête du djim qui est comme une tête de pigeon, ben, c'est un losange.
J'ai passé des heures pour pouvoir calculer ça.
Non, c'est-à-dire qu'on a introduit une théorie. À partir d'éléments simples de mathématiques. Ce n'est pas le fait que ce soit des mathématiques très compliquées qui entrent dans l'art. C'est le fait qu'une démarche scientifique entre dans l'art. On va soumettre même une partie de l'art, on va améliorer, on va accompagner le génie de l'artiste par des éléments contrôlables.
Je voudrais juste ouvrir encore une parenthèse, vous m'excuserez. Il y a une très belle calligraphie que tout le monde doit connaître. C'est celle d'un musulman qui est, je dirais, accroupi avec un livre du Coran. Tout est parfaitement proportionné. La tête, le corps, les mains, le livre, la façon dont il est accroupi, sa robe, ses pieds, et puis tout ce verset qui s'inscrit
absolument
à travers cette image.
Absolument. Et malheureusement, celui qui a fait ça ne nous dit pas comment il l'a fait, mais nous commençons à comprendre maintenant qu'il a dû soumettre quand même son travail à des proportions strict. Et enfin, donc, cette idée de calcul et de proportion eh bien, intervient dans la musique.
Genre,
et pour
oui.
qu'il y ait de l'harmonie pour l'oreille, eh bien, il faut qu'il y ait des proportions qui soient respectées. Bien sûr, les Indiens, les Grecs, les Chinois ont chacun inventé des harmonies, des proportions pour leur type de musique. Eh bien, les musulmans vont arriver, ils vont s'influencer bien sûr de l'aspect théorique, donc scientifique, développé par les Grecs, mais ils ne vont pas être influencés par les aspects précisément artistiques. On va prendre les éléments scientifiques. Par contre, l'élément indien, l'élément grec, eh bien, on va plutôt le mettre de côté. On va développer, mathématiser, si j'ose dire, la musique dite des pays d'islam. Arabe ou turc ou iranienne, persane, etc. Et là, on va développer la théorie des proportions, la théorie musicale. Et nous avons des auteurs très importants, comme Al-Farabi déjà, au IXe siècle, qui a écrit un très grand livre qui s'appelle Kitab al-Musiqi al-Kabir, le livre de l'art musical. Et plus tard, différents grands spécialistes, des musicologues, on ne dit pas des musiciens, théoriciens. Et l'un des plus importants, c'est l'Urmawi, donc 12e, 13e siècle, qui lui a écrit un livre, nous l'avons présenté d'ailleurs à l'exposition d'Alger aussi, hein, où il y a la théorie de la musique. Et la théorie, elle est basée sur la théorie des proportions. Et la théorie des proportions, c'est un chapitre du livre d'Euclide, du 3e siècle avant Jésus-Christ, mathématicien grec, et c'est le chapitre 5 des éléments d'Euclide. Donc vous voyez, c'est très très précis. Hein. Et les Arabes s'y réfèrent d'une manière tout à fait explicite.
Ben, c'est ça la partition musicale.
Oui, en particulier, ça repose sur ça.
Ben dites-moi, il nous faudrait juste quelques notes de musique maintenant. On a parlé de la calligraphie, on a vu le lien qu'il y a entre cet art de la calligraphie et les mathématiques. Mais vous avez évoqué tout à l'heure les mosaïques et on parle beaucoup de la technique du pavage dans l'art des mosaïques. Ces proportions dont vous avez parlé tout à l'heure.
Non, non.
Alors c'est autre chose.
Là, il s'agit de cet art difficile qui ne consiste pas seulement à inventer des motifs très beaux. Prenez une mosaïque,
oui.
Petite.
Oui.
Vous dessinez quelque chose de superbe. Donc là intervient à la fois l'imagination de l'artiste, son amour de la transgression, comme on dit, son choix des couleurs. Mais ça, c'est sur une mosaïque. Mais le problème, c'est qu'il doit recouvrir un mur, plusieurs murs. Sa mosaïque fait par exemple 10 cm sur 10 cm, il doit recouvrir des murs de plusieurs dizaines de mètres carrés. Parce que le grand problème qui se pose, c'est quel est le motif que l'on peut inventer qui est tel que si on le reproduit indéfiniment, il puisse recouvrir d'une manière harmonieuse et d'une manière qui soit continue pour ne pas qu'il y ait de problème de hiatus, ce qu'on appelle les problèmes du papier peint. Imaginez, vous collez le papier peint sur votre mur et vous avez des fleurs sur un morceau de papier peint, les mêmes fleurs sur l'autre morceau, mais si vous voulez faire le raccord ne se fait pas, parce que les fleurs ne se collent pas, bref, il y a un problème. Surtout donc, comment raccorder des morceaux d'images, de sorte qu'à la fin, quand vous regardez le mur en entier, vous voyez que tout est fluide, ce sont les mêmes images qui se reproduisent. Alors là, c'est un problème délicat. Ce n'est pas seulement le génie de l'artiste. C'est un problème mathématique. C'est l'un des problèmes les plus difficiles. Tellement difficile que le théorème n'a été établi qu'au début du XXe siècle en Europe. Parce qu'il lui fallait des outils mathématiques que ni les Grecs, ni les Arabes, ni les Musulmans, ni les Indiens, ni les Chinois n'avaient pu établir, parce qu'on ne peut pas établir un théorème avant d'établir d'autres. Il faut d'abord établir des dizaines et dizaines de résultats pour pouvoir établir celui-là. Ou alors, à ce moment-là, il faut le découvrir par l'intuition. Et alors là, on constate que cet art de couvrir les murs, qu'on appelle le pavage, ça s'appelle le pavage, le choix d'un motif qui est tel qu'on est sûr que si on le reproduit à droite et à gauche, si on le reproduit en haut et en bas, eh bien on a le recouvrement du mur d'une manière harmonieuse, sans qu'il y ait ce problème de rupture, de coupure. Et c'est un problème très difficile. Et on a démontré, au début du XXe siècle, qu'il n'y a que 17 motifs, 17, qui peuvent, s'ils sont reproduits, recouvrir le mur sans poser ce problème de raccord.
Et c'est dommage que vous n'avez pas vu mon regard interrogateur parce que je n'en revenais pas.
17. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que, sachant pertinemment qu'il était difficile de trouver ce théorème, on s'est posé la question d'abord, est-ce que les artistes musulmans, qui étaient les premiers concernés, parce que ce sont eux qui vont inventer cet art géométrique, et cet art donc du pavage pratiquement, est-ce qu'ils ont trouvé des motifs qui pouvaient recouvrir les murs? Première question. Ben oui, ils ont trouvé des motifs qui correspondent aux motifs qui ont été établis mathématiquement par les grands spécialistes au début du XXe siècle.
Des siècles après.
Oui, oui. Bien sûr, on peut les décorer comme on veut, etc. Mais c'est les motifs, c'est-à-dire les squelettes des motifs. Mieux que ça, combien ils ont trouvé de motifs? Eh bien, vous allez être étonné, c'est que les artistes des pays d'islam ont trouvé les 17 motifs. C'est-à-dire que quand on regarde les décorations qu'il y a dans les palais, en particulier celle qui est plus impressionnante, ce sont les décorations de l'Alhambra de Grenade, réalisées au XIIIe, XIVe siècle, par des artistes qui sont encore anonymes jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, on y a utilisé au moins, parce qu'il y a discussion entre spécialistes, 16 motifs originaux, presque les 17. Certains disent qu'il y a les 17. Tous les motifs qui assuraient le pavage, qui assuraient le recouvrement, avaient été découverts par les artistes. Alors se pose la question délicate, c'est comment ils ont fait? Et si on n'est pas historien rigoureux, très vite, poussé par l'amour du patrimoine musulman, arabe, on se dit, ben c'était des supermans, ils ont découvert le théorème.
Oui, ce sont des génies, quoi.
Des génies, ils ont découvert le théorème, et puis il a été perdu, puis ensuite il a été retrouvé en Europe. Après tout, ça arrive, hein, pour d'autres résultats.
Bien
on retrouve
sûr,
des théorèmes.
Oui.
Vous savez, au XIe siècle, un grand mathématicien dont on a parlé déjà dans des émissions précédentes, et qui s'appelle Mohamed, le roi de Saragosse, eh bien, il a trouvé un théorème au XIe siècle qui, en fait, va être redécouvert en Italie plusieurs siècles plus tard. C'est possible. Mais là, non, c'est pas possible. Là, nous pensons, en tant qu'historien, si on veut être sérieux, c'est qu'en fait, là, c'est un très bel exemple de la démarche de l'artiste qui, par son génie, par son intuition, par son savoir-faire, parce qu'il a dû sûrement essayer beaucoup de motifs qui n'ont pas marché.
Mm-hmm.
Il les a éliminés, mais il n'a rien dit. Mais bien sûr, mais il a remarqué
ça rentre pas dans la postérité.
Voilà, il a remarqué que ça ne marchait pas. Comment il a remarqué? Il ne pouvait pas le démontrer, puisqu'il n'avait pas le théorème. Mais il a senti, il a dû sentir que ça n'allait pas. Toujours est-il que c'est parfois, dans l'histoire de l'art, l'intuition, le génie de l'artiste, peut atteindre des résultats que des démarches purement rationnelles de très grands savants de mathématiciens ne découvrent que plusieurs siècles plus tard. Parfois, la démarche empirique est fulgurante, l'intuition est fulgurante, et c'est à l'opposé de la démarche lente, lourde, mais sûre, du savant, du mathématicien qui construit par empilement. Et donc, il n'a pas de vision foudroyante, sauf quelques exceptions près. Ça montre que les deux démarches sont complémentaires pour produire de belles choses.
Ça démontre bien que l'art décoratif musulman est tout à fait mathématique, là.
En partie.
en partie. Oui. C'est tout. Avec ce que vous venez de nous dire, de nous expliquer.
Non, ce que je veux dire, c'est que parfois certains exagèrent. Ils disent les artistes étaient de grands mathématiciens. Il n'est pas nécessaire d'être grand mathématicien pour introduire des mathématiques dans l'art. Comme d'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'être grand mathématicien pour introduire des mathématiques comme outil dans la physique, dans la mécanique. On montre que les mathématiques peuvent produire des choses tellement compliquées, d'un niveau tellement élevé, que, en fait, on n'en aura pas besoin dans l'application immédiatement. Et ce qu'on applique comme mathématiques, ce sont des choses souvent qui ne sont pas trop compliquées, qui sont simples, mais qui sont quand même des résultats mathématiques. Et quand on n'applique pas des résultats, quand on n'utilise pas des résultats mathématiques, on dit quand même qu'il y a des mathématiques dans l'art parce qu'en fait, il y a des démarches mathématiques. Même s'il n'y a pas de résultats à utiliser, il y a des démarches. Il y a la rigueur, par exemple. Il y a cette idée qu'il faut absolument mesurer. L'artiste, pour qu'il ait ce type de réflexe et de démarche, a dû sûrement, là je peux m'avancer, eu une culture géométrique puissante. Même s'il n'a pas découvert de théorème. Ou du moins, le savoir mathématique, le savoir artistique n'était pas cloisonné. Les savoirs n'étaient pas cloisonnés.
Eh bien, notre voyage se termine là ce soir. Une fois de plus, qu'est-ce qu'on doit dire ? Merci, professeur Djebbar, pour cette émission très esthétique, il faut le souligner, où, une fois de plus, eh bien, on a pu apprécier tout le génie des savants et des artistes de l'âge d'or des sciences arabes. Et puisque rien n'était cloisonné, eh bien, la semaine prochaine, émission cadeau. Carrément cerise sur le gâteau, puisque le professeur Djebbar viendra répondre en direct à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser sur les 15 thèmes, les 15 émissions que vous avez pu écouter. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Vous avez donc toute la semaine, 7 jours pile, pour bien tourner vos questions, toutes les questions que vous voudrez bien poser au professeur Djebbar. Rendez-vous donc vendredi prochain. On sera le 11 avril dès 18h15 pour un débat ouvert autour de cette belle saga. Bonne semaine à tous.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Djebbar. Présentation Dalila Smaïl. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fouhar.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.